Bienvenue, c'est la deuxième partie de notre rendez-vous santé, c'est la partie prévention avec nos invités. La France n'est pas encore prête pour le déconfinement. Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a prévenu que le niveau de contamination quotidienne ne baissait plus depuis un certain temps dans le pays. Sur le continent africain, le nombre de cas confirmés de Covid-19 est monté à plus de 2 millions selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. L'Agence continentale de contrôle et de prévention des maladies a déclaré que le bilan des morts liés à la pandémie s'élevait à plus de 53 000. Depuis plusieurs mois, plusieurs laboratoires s'activent pour mettre au point le premier vaccin contre la maladie. Tout s'est accéléré en novembre avec les annonces des fabricants sur l'efficacité de leurs produits. La vaccination contre la Covid-19 sera gratuite et pas obligatoire en France. Elle devrait commencer dès janvier 2021 selon les autorités. Alors que sait-on de ces vaccins, de leur efficacité? On en parle avec nos invités ce matin. Avec nous au téléphone d'Africa Radio, Sophie Figueux. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, vous êtes médecin infectiologue et chargé d'expertise et de projets sur les risques infectieux à Santé publique France. Nous rejoint sur le plateau d'Africa Radio le docteur Sayavé Ngoumou, chirurgien, expert de l'Union africaine en télémédecine et président du conseil médical de la société Nazunki qui s'occupe de la prise en charge médicale à l'international. Donc merci également docteur d'avoir fait le déplacement. On va commencer avec vous, Sophie Figueux. Bonjour. Alors est-ce que la situation épidémique reste pour vous préoccupante en France?
Alors, les données qu'on a, dont a parlé effectivement le directeur général de la santé, c'est qu'après un mois de diminution très importante, en particulier du nombre de nouveaux cas, c'est vrai que depuis quelques jours, on voit une forme de plateau et on voit à peu près que chaque jour, on est autour de 10 000 nouveaux cas de contamination. Donc, il n'y a pas de, à l'heure actuelle, il n'y a pas de réaugmentation, mais il y a un plateau, et c'est vrai que c'est au-dessus des 5 000 qui avait été pris comme critère par le président de la République.
Sophie Figueux, le directeur général de la santé, a donc affirmé que le niveau de contamination quotidienne ne baissait plus depuis un moment. Comment l'expliquez-vous? Est-ce qu'il y a eu un relâchement, ou est-ce qu'il y a encore un relâchement dans les mesures barrières, d'après vous?
Alors nous, comme vous savez, on suit régulièrement avec des études ce que font les Français en termes de mesures barrières. Et en fait, on ne voit pas de relâchement dans les derniers chiffres, ils datent d'il y a quelques jours. Donc ça, les Français continuent à faire beaucoup d'efforts sur les gestes barrières, mais il n'y a plus d'augmentation de l'adoption de ces gestes. Et il y a encore quand même, ils peuvent encore améliorer. Donc si la grande majorité font très attention, il reste quand même des progrès à faire en termes, par exemple, de lavage des mains, d'éviter de se tenir trop près des autres. Et puis, par exemple, le port correct du masque qui se met sur le nez et pas sous le nez. Donc, il y a encore des progrès à faire, même s'il faut quand même dire que les Français font beaucoup d'efforts déjà.
Docteur Sayavé Ngoumou, bonjour.
Bonjour.
Docteur, l'Europe a connu une deuxième vague importante. Et cette deuxième vague peut-elle toucher le continent africain? D'ailleurs, le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize, a déclaré hier soir que l'Afrique du Sud faisait face à une deuxième vague.
Oui, on ne peut pas dire que l'Afrique va échapper à une vague, parce que quand on connaît le mode de fonctionnement de ces épidémies, surtout les maladies virales, on a toujours, comme un peu comme les volcans, il y a un épicentre, puis après il y a des répliques. Et ces répliques-là, ça peut être des différentes vagues, et on peut dire que c'est probablement en cours en Afrique. Sauf qu'en Afrique, la différence, c'est que le nombre d'hospitalisations et de morts, lui, n'augmente pas trop par rapport à l'augmentation des cas.
Alors que le niveau des contaminations reste très faible sur le continent, une poignée de pays doit affronter une nouvelle flambée donc du virus, l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud. Donc, pourquoi ces pays sont-ils confrontés pour le coup à une deuxième vague?
Alors, ce serait un peu prétentieux pour moi de dire que j'ai la solution, j'ai la réponse à cette question, mais il faut partir d'un principe que nous avons en médecine, que c'est les anthropologues de la médecine qui l'ont développé, ce qu'on appelle le complexe pathogène. Le complexe pathogène, ça veut dire pourquoi vous et moi, nous avons fait la même chose, pourquoi moi je suis malade et pas vous. Et quand on l'analyse, il y a l'environnement qui est pris en compte, les pays que vous citez, j'ai l'impression qu'ils ont un mode de vie qui se ressemble le plus un peu plus du mode de vie de l'Occident. Et quand on prend dans l'observation qu'on a faite, il y a eu un moment où on a pensé, et moi je continue de le penser, qu'au niveau du paludisme et du traitement du paludisme, il y a probablement des interactions avec le virus. Et ces pays que vous citez, ce sont des pays où il n'y a pas excessivement de cas de paludisme ou de traitement de paludisme. Donc est-ce que ces éléments-là, si on les met ensemble, peuvent expliquer peut-être?
Oui. Alors, la circulation en Afrique depuis longtemps de coronavirus, autre que forme grave et symptomatique, pourrait expliquer que beaucoup de personnes développent des anticorps qui atténuent des formes graves et symptomatiques, notamment autre que dans ces pays que l'on a cités, l'Algérie, le Maroc et l'Afrique du Sud.
Oui, ça peut être un critère, mais qu'il ne faut pas se limiter à ce seul critère. Mais quand on prend ici, par exemple, les bébés, ils ont à peu près les mêmes choses. Ils ont eu beaucoup de coronavirus et bon, après, on a l'impression qu'ils résistent un peu plus. Mais il y a beaucoup d'autres éléments qu'il faut mettre en compte, en ligne de compte. C'est que, premièrement, il faut penser aussi que nos collègues sur place ont bien pris en charge les cas de Covid, surtout qu'ils sont habitués à toutes les pandémies en Afrique. Et l'autre chose, moi j'ai discuté la dernière fois avec un grossiste pharmaceutique pour qui on organisait une sorte d'informatisation de ces solutions, et il me disait, on n'a jamais vu une telle flambée de consommation des antipaludéens. Depuis plus de 10 ans, il a plus de 5000 pharmacies qui relèvent de lui.
Sur le continent, vous voulez dire?
Sur le continent. Et lui, il est uniquement en Afrique de l'Ouest d'ailleurs. Et il a plus de 5000 pharmacies, et il dit, mais ça a été multiplié par un nombre, je ne comprends pas. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des signes ou une pathologie qui est traitée comme un palu dans cette région. Mais c'est quoi aujourd'hui? Je pense que ce sont des cas de Covid. Donc ce n'est pas qu'il n'y a pas de cas, il y a des cas, mais les gens les traitent comme un palu. Et je sais aussi que nos collègues n'ont pas suivi les directives d'arrêter d'utiliser l'hydroxychloroquine. Ils l'ont continué. Alors ça ensemble, est-ce que ça ne pourrait pas expliquer certains aspects?
Sophie Figueux, pensez-vous qu'il sera difficile d'avoir moins de 5000 contaminations un jour, comme le souhaite le président Macron d'ici le 15 décembre?
Alors, de toute façon, on suit au jour le jour les données que vous pouvez voir sur l'application d'ailleurs. C'est vrai que pour l'instant, depuis quelques jours, ça reste vraiment au plateau à 10 000. Donc on va continuer à suivre ce qui se passe, mais on a l'impression que c'est stable depuis plusieurs jours. Bon, on va voir ce que ça donne dans les jours qui viennent. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que on n'est pas dans un confinement total comme le premier confinement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui travaillent, il y a le niveau scolaire, donc il est difficile de descendre quand même très très bas parce qu'il reste une activité qui est plus importante.
Dans ces conditions, est-ce que le déconfinement serait risqué selon vous?
Alors ça, c'est le déconfinement, c'est vraiment des décisions politiques. Donc le Premier ministre doit parler ce soir. Santé publique France, on donne les données et après les décisions qui doivent regarder toute une série d'autres éléments sont prises par les politiques. Donc c'est pas à nous de dire ce qu'il faut faire ou de commenter.
Alors Sophie Figueux, la vaccination contre la Covid-19 sera gratuite et pas obligatoire en France. Elle devrait commencer dès janvier 2021 selon les autorités. Alors est-ce que cela vous semble envisageable et quel vaccin serait utilisé?
Alors, pour la France et d'ailleurs pour l'Europe, vous savez que les médicaments, c'est l'agence européenne qui les évalue. Il y a trois dossiers de vaccins qui sont en cours d'examen. Et le premier dossier qui va être examiné, c'est le dossier du vaccin Pfizer, qui doit être examiné d'ici le 29 décembre. Donc, on ne sait pas à quel jour exactement, mais ça va être avant le 29 décembre. Après, une fois qu'il y aura une autorisation, donc le dossier aura vraiment été scruté par les plus grands experts européens, à ce moment-là, ça passera au comité des vaccinations en France et il pourra être ensuite utilisé. Et donc, effectivement, c'est au mois de janvier que, selon toute probabilité, la vaccination pourra commencer.
Sophie Figueux, que savez-vous aujourd'hui de ces vaccins annoncés? Vous avez évoqué celui développé par Pfizer et BioNTech. Il y a également Moderna, AstraZeneca et le vaccin chinois.
Alors, jusqu'ici, c'est vrai qu'on avait peu de données. On avait surtout les communiqués de presse des différentes firmes. Alors, depuis mardi, donc depuis deux jours, ça a quand même beaucoup changé. Parce que d'une part, il y a eu une publication dans une grande revue anglaise des premiers résultats pour le vaccin d'AstraZeneca. Et d'autre part, un point très important, c'est que les données pour le vaccin Pfizer ont été mises en ligne. Elles sont examinées aujourd'hui par l'agence américaine, la FDA. Et donc, sur le site de l'agence américaine, il y a à la fois les données du vaccin en termes d'efficacité et de tolérance, et puis il y a aussi les premiers commentaires de l'agence américaine, donc leur premier rapport. Donc, ce qui veut dire qu'on commence maintenant à avoir des données qui vont nous permettre de... qui vont permettre, c'est les mêmes données qu'est en train de regarder l'agence européenne. Donc, on commence à avoir des données beaucoup plus importantes et fiables sur ces vaccins.
Alors, plusieurs de ces vaccins, Sophie Fégueux, sont à base de matériel génétique, l'ARN messager. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, éclairer nos auditeurs sur ces vaccins à base de matériel génétique et quelles sont les particularités de ces vaccins ?
Alors, il y a deux vaccins. Donc, c'est le vaccin de Pfizer et le vaccin de Moderna, qui utilise effectivement la technique de l'ARN messager. Donc l'ARN messager, c'est un petit bout d'ARN. Hein. C'est quelque chose qui est quand même étudié depuis longtemps. C'est surtout dans le domaine du cancer que ça avait été étudié. Mais évidemment, ça a donné la recherche sur le vaccin a beaucoup fait avancer cette recherche. Et donc l'idée, c'est dans le vaccin, il y a on va injecter des petits bouts d'ARN messager qui vont faire fabriquer une protéine du virus, donc une partie du virus qui s'appelle la protéine spike. Et donc c'est l'organisme lui-même qui va fabriquer ces protéines qui vont permettre d'entraîner des anticorps et donc une protection de l'organisme.
Docteur Sayev Egnoumou, vous que pensez-vous de ces vaccins, notamment de ces vaccins à base de matériel génétique ?
Les vaccins en eux-mêmes, je n'ai pas de problème avec, c'est parce que ce sont des avancées scientifiques, ils ont toujours été utilisés pour sauver des vies. Les vaccins à ARN, je vois que cette technologie-là qui a été utilisée jusqu'aujourd'hui, depuis des années, dans tout ce qu'on a dans les cancers, en termes de sorte de traitement du cancer. Donc, ils sont bons, mais on n'a pas encore autorisé, par exemple, l'utilisation, même dans le cancer, dans des cas dépassés, on n'est pas encore allé à l'étape de masse. Il y a énormément de recul à faire. Donc, ce qui me gêne dedans, c'est un peu la précipitation et peut-être aussi le fait qu'il y a beaucoup de morts, qu'il faut faire vite et autres, mais on ne peut pas mettre la pression sur un scientifique. Et donc ça, c'est les aspects qui me gênent. Sinon, en termes de science, c'est extraordinaire, c'est qui est là où on arrive. Mais on va trop vite.
Mais est-ce que ça veut dire que vous ferez plus confiance à des vaccins qui n'utilisent pas du matériel à base génétique, les autres vaccins, AstraZeneca et le vaccin chinois, par exemple ?
Alors, en termes de confiance, je sais que les vaccins, par exemple, qui sont génétiques, c'est un peu comme les OGM, je sais que si on arrive à enlever tous les aspects, à se départir de tous les aspects d'effets secondaires, de continuité, à ce moment, leur efficacité va être supérieure à celle des vaccins traditionnels. Mais, pour l'instant, moi, si, par exemple, je devais me faire vacciner, je prendrais un qui est traditionnel, c'est simplement pour moi, par peur des effets qu'on ne connaît pas encore. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais pour l'instant, on ne les connaît pas.
Alors, des médecins se posent des questions concernant ces vaccins, notamment ceux à base de matériel génétique. C'est le cas, par exemple, du professeur Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, s'exprimant chez nos confrères de France Inter il y a deux jours. Éric Combe a fait part de ses craintes.
Malheureusement, on manque de recul, on n'a toujours pas les publications scientifiques. Les dossiers sont à l'agence des médicaments américaines et européennes, mais nous, on n'y a pas accès. Donc pour l'instant, non, je peux uniquement vous dire que malheureusement, je manque de recul parce que je n'ai pas les informations. Avec les vaccins à base d'ARN messager, c'est-à-dire avec les vaccins génétiques, mettez-vous à ma place. Je n'ai toujours pas vu une publication scientifique qui corresponde à ces vaccins. Donc moi, me vacciner avec des produits que je ne connais pas, dont je n'ai d'informations que par les communiqués de presse des laboratoires pharmaceutiques, c'est quand même leur faire une confiance aveugle et absolue.
Éric Combe, qui s'est exprimé, il faut le rappeler, il y a 2 jours, avant que l'on apprenne que le vaccin contre la Covid-19, développé par AstraZeneca et l'Université britannique d'Oxford, est devenu le premier à avoir ses résultats d'efficacité validés par une revue scientifique de Lancet.
Sophie Fégueux, alors quelle est votre réaction? Partagez-vous les craintes du professeur Éric de Combe?
Alors, c'est ce que je disais au départ, c'est qu'effectivement, jusqu'à mardi, on n'avait pas les dossiers. Donc, lui, il a parlé, je ne sais plus, le matin, probablement. Et en fait, c'est dans la journée que sur le site, donc comme je vous le dis, de la FDA, on a eu le dossier de Pfizer et les commentaires de la FDA. Donc, c'est vrai que c'est des informations qui sont extrêmement récentes. Donc, c'est depuis 2 jours qu'on a toutes ces informations, qui sont des informations extrêmement riches et utiles. Maintenant, c'est donc à l'expertise des grandes agences, donc ça va être l'agence américaine en particulier, et pour nous, l'agence européenne, qui, à partir de ces dossiers, vont décider de donner l'autorisation de mise sur le marché ou pas. Et ça, c'est fait vraiment par des experts. Ces agences, elles sont extrêmement reconnues pour leur efficacité, leurs compétences. Et donc, on sait qu'elles avaient déjà les dossiers depuis à peu près 2 mois et elles demandaient au fur et à mesure des renseignements complémentaires. La nouveauté, c'est que tout le monde, y compris Éric Combe ou tous les gens qui s'intéressent au sujet, peuvent maintenant regarder ces dossiers.
Mmh. Docteur Sayavé Gnouvou, comment vous réagissez aux propos du professeur Éric de Combe qui s'est exprimé, hein, effectivement, c'est important de le rappeler, il y a 2 jours, donc avant qu'il y ait des résultats validés par une revue scientifique de Lancet?
Alors, il y a 2 choses. Il y a effectivement la publication dans les revues scientifiques et puis il y a les dossiers qui vont être... ce qui finalement est le plus important pour l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire l'ensemble des données que regardent les experts les plus qualifiés. Et bien sûr, c'est assez normal que jusqu'ici, les scientifiques, les médecins regrettaient de ne pas avoir ces données. Donc là, on commence à avoir des données pour 2 vaccins. Ça va continuer, on aura les données pour les vaccins suivants. C'est vrai que c'est très important que la communauté scientifique puisse voir les résultats. C'est le fondement de la médecine moderne, c'est que tout le monde puisse regarder les données.
Docteur Sayavé Gnoumou, vous partagez l'analyse de Sophie Fégueux?
Oui, je partage son analyse. Je suis d'accord avec le professeur quand il parlait avant-hier, parce qu'on est dans une situation de flou. Vous voyez, quand on a annoncé cette sortie, il y a 2 choses qui ne m'ont pas plu. La manière, on avait l'impression d'entendre Apple qui annonce la sortie de son prochain iPhone. Et ça, on est en médecine, on est dans la vaccination, dans la vie des hommes. Lui, il peut annoncer qu'il sort ça, bon, c'est parce qu'il y a de non ni rien, et puis tout le monde se précipite. Mais là, cette manière-là, où le PDG qui tout de suite vend ses actions, il a 5 millions de dollars, est-ce qu'il n'a plus confiance en sa société? Pourquoi il se précipite pour les vendre? Pour nous et pour le public, ça veut dire qu'il n'a pas confiance, il est en train de mentir, il est en train de se débarrasser. Donc tout ça, ce sont des aspects qui gênent dans la manière dont ça a été fait. Et on commence, et c'est seulement aujourd'hui qu'on a les informations. Donc c'est maintenant qu'il faut laisser le temps de prendre les informations et puis ensuite avancer.
Alors, le Royaume-Uni a lancé sa campagne de vaccination cette semaine. Le pays qui recense au moins 61 245 morts liés à la pandémie a été le premier à donner son feu vert au vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer-BioNTech. En tant que médecin, est-ce que ce pays a eu raison, selon vous, docteur Savaillé Gnoumou, de lancer la vaccination à maintenant?
Alors, bon, dire qu'un pays a raison ou pas, c'est un peu, je serais prétentieux, parce que chaque pays a une sorte de souveraineté et de décider ce qu'il veut pour sa population avec sa population. Si la population est d'accord, c'est leur problème. Mais l'observation s'impose. Comme on le disait tout à l'heure, même avec Sophie, c'est seulement hier et avant-hier qu'on a les informations. Et eux, ils commencent sans ces informations. Ou alors, peut-être qu'ils les avaient déjà. Je n'en sais rien. Donc ça me pose quelques problèmes. Mais et l'autre chose, l'observation, comme je dis, hier il y a eu quelques cas de réaction. Il y a eu 2 cas de réaction.
Ouais. Et des allergies, des formes d'allergies.
Des formes d'allergies qui ont apparu. Et quand je vois ce que ça a eu comme effet, ça veut dire qu'on est dans une situation presque de bêta-test. Sinon, n'importe quel vaccin peut donner une réaction. Pourquoi, à cause de cette réaction, il y a eu autant d'emballements? Ça veut dire qu'on est en bêta-test. Et si on est en bêta-test, je suppose que l'Angleterre a pris toutes les mesures et qu'ils ont prévenu les populations sur les avantages que ça pourrait leur apporter et qu'ils ont les ont aussi prévenus sur l'ensemble des risques. Et en particulier, quand on est en bêta test, ça doit être volontaire. On ne peut pas imposer quelqu'un à y être dedans.
Sophie Figueux, il va y avoir certainement des effets secondaires pour certaines personnes de ces vaccins ?
Tout médicament actif, il y a toujours des effets secondaires possibles. Hein. On sait que les vaccins, par exemple, si vous vous faites vacciner contre la grippe, eh ben, il y a des effets. En particulier, on a mal au bras, on peut avoir un peu de fièvre. Donc un médicament actif, il a toujours il peut toujours avoir des effets secondaires. Après, ce qui est très important, c'est de faire la balance entre les avantages et les inconvénients. Donc ce qu'on veut d'un médicament, c'est qu'il ait beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et donc c'est ça l'expertise, ça va être de dire que le vaccin, il a finalement beaucoup d'avantages parce qu'il est efficace et un nombre d'effets secondaires limité et la balance bénéfice-risque justifie de le faire. Et ça c'est vrai pour les vaccins comme c'est vrai pour tous les médicaments.
Alors justement Sophie Figueux, des citoyens ont affirmé qu'ils ne se feraient pas vacciner, ont-ils raison de s'inquiéter ?
Alors, d'abord, c'est comme vous l'avez bien dit au départ, c'est une vaccination qui ne va pas être obligatoire. Donc, chaque citoyen pourra décider de ce qu'il veut faire. Il faut savoir aussi que le vaccin, il ne va pas, dans un premier temps, il ne sera pas proposé à tout le monde. Hein. Il sera proposé aux gens les plus à risque, en particulier les personnes âgées qui vivent dans les EHPAD ou dans des longs séjours et le personnel qui s'occupe d'eux, qui a des facteurs de risque. Donc, il n'y aura pas le vaccin, ça sera vraiment les arrivées progressives. Donc, au départ, c'est pas la population générale qui va se faire vacciner, c'est les personnes les plus à risque. Et d'ailleurs, on voit dans les enquêtes qu'on fait que les personnes qui sont le plus favorables à se faire vacciner, c'est justement les personnes plus âgées, les personnes qui ont des risques et qui se rendent compte qu'elles ont besoin le plus de ces vaccins.
Docteur Sayavé Gnoumou, la course au vaccin est semée d'obstacles hein, pour le continent africain. Ce sont plusieurs experts qui l'indiquent. Vous, tout d'abord, est-ce que vous souhaitez que, par exemple, que le vaccin Pfizer-BioNTech soit utilisé sur le continent africain dès que ce sera possible ?
Bon, moi, à mon niveau, je pense que ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas à l'ordre du jour. Pourquoi je le dis ? Parce que vous voyez, même en Angleterre, ils ont du mal à amener le vaccin dans les endroits, les lieux de vaccination. Donc, ils ont été obligés de limiter. Ça, c'est juste la partie logistique, c'est-à-dire l'infrastructure et autres. Et l'Angleterre n'est pas un pays africain. Ça veut dire que pour aller en Afrique avec un tel vaccin, ça va poser énormément de problèmes. La dose, je suppose, j'ai l'impression...
C'est-à-dire qu'il faut le conserver dans des températures extrêmement froides.
Extrêmes, ouais. Le transporter, déjà. Ouais. Le transporter dans les mêmes conditions, l'amener là-bas sur place... et le distribuer dans les mêmes conditions. La deuxième contrainte, vous voyez, ce vaccin, il est à autour de 20 euros la dose, je crois. Et s'il faut deux injections, ça fait 40 euros. 40 euros multiplié par le nombre de populations qu'il y a, c'est quelque chose, ça va augmenter et il va revenir à peut-être 80 euros à cause du transport et tout. Et comment on peut expliquer que ce vaccin, on l'amène là-bas en masse pour vacciner des gens dans une situation où elle n'est finalement pas aussi mortelle que ça. Donc ça pose quelques problèmes de conscience. De mettre autant d'argent dans quelque chose, est-ce que c'est vraiment la priorité de chaque pays africain, le Covid ? C'est ça qu'il faudra analyser.
Et justement, est-ce que le continent doit développer son propre vaccin et peut-il le faire ?
Alors, en fait, il peut le faire parce qu'en Afrique, il y a une expertise évidente. Parce qu'on ne peut pas toujours penser que c'est ce qui vient du dehors qui est bon. Il y a une expertise parce que la prise en charge même, quand on voit ce qui se passe là-bas, nos collègues là-bas savent faire. Le problème, il leur manque souvent beaucoup de matériel et beaucoup d'équipement. C'est ça qui les retient. Mais sinon, quand on prend leur contexte, ils peuvent facilement développer tout ce qu'il faut. On peut le faire là-bas. Et il faut qu'on apprenne aussi sur place à avoir une expertise et même à développer et pour déposer des brevets. Parce que dans le contexte qui se passe, quand on a pris le cas des cas des antipaludéens qui ne marchent pas, eux ils ont continué. Il faudrait qu'ils puissent sortir leurs études à eux dans leur environnement, dans leur population et prouver que est-ce que ça marche ou ça marche pas. Pas parce que ça marche pas au Danemark que ça marchera pas là-bas. Donc ils ont une expertise évidente qui peut bénéficier au reste du monde au reste de l'humanité. Ouais. Il faut les aider, il faut mettre en place des structures telles qu'ils puissent le faire.
Est-ce qu'on doit s'inspirer de l'exemple marocain où c'est que le Maroc a lancé déjà une campagne de vaccination?
Oui, le Maroc l'a fait. Ils ont même
Mais pour quel vaccin? Pour quel vaccin?
Alors, le Maroc a utilisé le vaccin chinois, je crois. Et il y a eu l'Afrique du Sud, il y a même eu le Malawi qui ont tous essayé et qui ont fait des études dont les résultats sont en attente. J'ai pas, à mon niveau, encore les résultats, mais ils ont fait des campagnes avec des études et les résultats sont en attente. Et ce que je dis, c'est que même le cas du Maroc, quand vous le prenez, aujourd'hui, ils sont à plus de 36 000 cas, peut-être. Mais quand vous regardez le nombre de morts, ça baisse.
Oui.
Ça n'augmente pas, ça baisse le nombre de morts. Et même le nombre d'hospitalisations, ça n'augmente pas, ça reste là. Donc, ça veut dire qu'ils sont à un niveau où la prise en charge, elle est très bien faite. Donc, ils ont une expertise à partager. Et je crois que le Maroc a négocié même avec les Chinois pour produire du vaccin sur place.
Alors, mais que sait-on de ce vaccin chinois?
Alors,
vous avez de l'information concernant ce vaccin?
En fait, c'est même pas un vaccin chinois. Les Chinois, ils font plusieurs vaccins. Même les ARN et les ADN, ils sont en étude là-bas. Mais ils l'ont pas. Ce sont des parties qui n'ont pas divulgué ou qui n'ont pas encore, il y a aucune publication dessus. Mais ils font les vaccins avec du virus atténué. Ça, ils en font, c'est ce qu'ils font, qui sont les vaccins traditionnels du virus atténué. Ils ont aussi des protéines qu'ils cultivent en laboratoire, qu'ils utilisent dans la vaccination. Et ce qui est utilisé en particulier au Maroc, qu'ils ont testé, c'est avec le virus atténué.
Merci.
Sophie Fégueux, peut-être un mot sur peut-être ce virus chinois qui est utilisé, dont on parle, et ce vaccin venant de Chine qui est déjà utilisé sur le continent africain, notamment au Maroc.
Alors, en fait, nous, on n'a pas du tout de données parce que les vaccins chinois, il n'y a pas eu de demande au niveau de l'Europe ou des États-Unis, d'ailleurs. Hein. Donc, dans l'agence européenne, il y a trois firmes qui ont déposé leur dossier. Donc, Pfizer, Moderna, AstraZeneca et les autres firmes. Donc, il y en a certaines qui ne sont pas encore assez avancées pour le déposer, ou il y a des firmes qui choisissent de ne pas déposer leur dossier dans ces agences, parce que c'est vrai que c'est des agences qui sont extrêmement dures, qui demandent beaucoup, beaucoup d'éléments, et ça peut être un choix de ne pas le déposer. En tout cas, il n'y a pas eu de dépôt de dossier sur ces vaccins.
Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite une bonne journée. Merci, à très bientôt. La suite avec Ambiance Africa qui arrive dans un petit instant. On retrouve également l'info. Nous prendrons la direction de Dakar dans un petit instant pour retrouver nos collègues de BBC Afrique pour l'info.